Pour parler de distribution logicielle, nous avons préféré prendre contact, non pas avec un constructeur de distrib, mais pour une fois, quelqu'un qui les teste exhaustivement. Nous interviewons donc Frédéric Béziers, blogueur qui depuis 3 ans publie une suite de billets critiques pour choisir sa distribution Linux, auteur du livre Complètement Geek, édité par Larousse, youtubeur mais pas dans les tutos beauté ou cuisine, même si c'est en cuisine.
CPU carré petit utile.
Frédéric, quel a été ton premier contact avec Linux?
Ben salut, mon premier contact, ça remonte à 22 ans. C'était en 96 avec un magazine, comme tu disais, en papier glacé, qui s'appelait PC Team à l'époque. Je ne sais pas si tu as connu.
Ouais, c'était l'équipe qui faisait Amiga Dream et tout ça, oui.
Et Login, oui.
Et qui maintenant s'appelle MISC.
Oui, donc là, j'avais commencé à trouver. Et ma première distribution, d'ailleurs, que j'ai gardée dans mon cœur par la suite, c'était la Slackware.
Ouais, c'est qui est l'une des toutes premières distrib. Hein,
il faut c'est la première, enfin c'est l'une des distrib ancestrales encore vivantes. Mm. Bien sûr, c'est la seule qui date de 93 qui est encore vivante avec Debian.
Exactement. Quel en est ton usage actuel de Linux?
Eh ben, c'est un usage de la vie de tous les jours, aussi bien bureautique que ludique, un peu parce que des vieux jeux. Je suis un peu rétro computing. Ludique, vidéo, un peu de tout, quoi. Mais c'est vraiment du généraliste. Ça peut très bien être écrire du texte, voir des vidéos. Donc, c'est vraiment le passe-partout.
Voilà. D'accord.
Sauf des trucs un peu trop pointus comme l'infographie et compagnie. Mais moi, c'est une utilisation bureautique classique que j'ai de, bien sûr, Internet et compagnie.
Mmh. Alors, oui, tout à fait. Tu as dit tout à l'heure donc effectivement ta première distrib c'était Slackware. Quelle est actuellement la distribution que tu utilises le plus souvent, celle dans laquelle tu es le plus confortable?
C'est Arch Linux. J'utilise depuis fin 2008, début 2009, mmh. Et sur toutes mes machines ou presque.
D'accord, ok. Est-ce que tu es allé jusqu'à tenter de compiler des logiciels? Voir compiler le kernel Linux, la libc, Xorg,
Compilation, c'est-à-dire que, bon, je vais faire un aveu, je n'ai jamais utilisé le moindre logiciel de Mozilla en version stable chez moi.
D'accord. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça peut être en nightly.
Non, oui, je suis, c'est-à-dire que depuis encore l'an 2000, en gros, c'est le début de quand j'ai commencé à utiliser le logiciel de Mozilla, je n'ai utilisé que des versions de développement. Et à partir de 2002-2003, j'ai commencé à compiler mes versions.
Ouais. À l'époque, c'était effectivement, c'était encore Mozilla, c'était encore la suite unique.
C'est la suite Mozilla, oui.
Déjà que c'était pas Veloce et compilateur.
Non, mais c'est-à-dire que c'était quand même sur des machines, c'était Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Et là, mais c'est-à-dire que j'ai connu les premiers Firefox, qui s'appelaient Phoenix à l'époque. Après, c'était Firebird.
Oui. C'était devenu Firefox au cours. Oui, Phoenix, c'était jusqu'à 0.7. Ensuite, ils ont tenté Firebird jusqu'à la 9.3. La 9.3.
Je vais corriger de mémoire. Jusqu'à 04, 05, c'était Phoenix. Après, il y a eu problème avec les fabricants de BIOS, donc ils ont changé le nom.
Oui.
C'est devenu Firebird en 05 jusqu'en 07. Et à partir de 08, c'était Firefox. Mmh.
Faudrait que je révise. Alors.
Pour le noyau, j'ai fait aussi.
Mmh. Et c'est beau hein, de compiler le noyau.
Oui, mais à l'époque, il fallait, quand c'était utile, mais maintenant, les noyaux génériques suffisent largement.
Quand tu le foires, t'as un grand moment de solitude hein, pour t'en sortir.
Ah, mais ça, je confirme. C'est pour ça que les machines virtuelles sont très utiles.
Oui, techno qu'on n'avait pas trop à l'époque.
Voilà.
Effectivement. Pourquoi est-ce que tu as commencé une suite de billets pour comparer les distributions Linux?
Mais au début, c'était pour les faire connaître, aussi bien les bonnes que les pires daubes qui pouvaient exister. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait des tests. Et puis, petit à petit, je me suis dit, je vais synthétiser tout ça. Et il y a 3-4 ans, j'ai commencé à faire des synthèses pour conseiller les distributions en fonction du niveau de l'utilisateur. Voilà, c'est là que j'ai mis mes billets synthétiques.
Et en fait, les utilisateurs normaux, tu les vois galérer toi-même?
Mais c'est-à-dire que je divise les utilisateurs en 3 groupes. De ce qu'on appelle les lambda, les débutants, les intermédiaires qui savent quand même se débrouiller et les avancés qui se la pètent en ligne de commande.
Ok.
Je pense qu'il y a des distributions qui doivent être adaptées à chaque niveau d'utilisateur. Bien sûr, il y a toujours des utilisateurs qui ont le cul entre deux chaises et qui chercheront des distributions un peu plus évoluées. Mais sinon, c'est-à-dire que les distributions comme Manjaro, Manjaro pour la rolling, Ubuntu pour la fixe, qui permettent comme ça déjà à des personnes de savoir d'avoir des distributions qui fonctionnent out of the box. Et qu'on n'est plus à l'époque du « Ah, peut-être, est-ce que ça va fonctionner quand je vais redémarrer ?» C'est surtout ça.
Est-ce que pour effectuer tes chroniques, que tu sors quand même très régulièrement de ce que je vois, de ce que je lis hein, quand je regarde, est-ce que tu as une grille de tests, une grille d'écriture
Mais c'est-à-dire que dans mes tests, je regarde surtout les trucs basiques. Est-ce que la distribution est bien traduite? Parce que c'est quand même moins des choses. C'est d'avoir une distribution qui est traduite minimum à 80%, 95% de la langue qu'on veut utiliser. Est-ce que la Logitech est intéressante? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ce sont des points de base que je teste. Après, je le vois en fonction, bien sûr. C'est-à-dire que je commence à écrire un premier texte au brouillon rapidement, je fais ma vidéo, je complète.
D'accord. Soi-même, est-ce qu'il y a des fois où tu sais que non, ça va être galère quand je vais l'utiliser Tu le sens venir ou d'autres fois, tu as des surprises, soit bonnes, soit mauvaises.
J'ai des très bonnes surprises, comme la Solus OS, j'ai des très bonnes surprises. Au début, la Manjaro, j'y croyais pas trop et finalement, c'était une bonne surprise, même s'il y a des périodes un peu tendues. Il y a aussi des déceptions, des distributions qui étaient très bien et puis qui s'effondrent sous le poids des années.
Est-ce que tu te sens objectif au final?
Qui peut être complètement objectif? Vous avez 4 heures et deux copies doubles. Alors, je sais quand même de rester au maximum objectif tout en évitant. Bon, j'aurai toujours un minimum de subjectivité, ça, on ne peut pas l'éviter. Mais j'essaie toujours de rester aussi neutre que possible, de rester aussi froid que possible et de me mettre surtout dans la peau, quand je parle de distribution pour débutants, dans la peau d'un utilisateur lambda.
D'accord. Linux a été le premier système d'exploitation à proposer le concept de clé USB live, c'est-à-dire d'une clé démarrable sans avoir à installer quelque chose sur l'ordinateur. Est-ce une bonne manière de tester une distribution où finalement ça a trop de limites en taille, en temps d'accès?
Moi je pense que le point important c'est la compatibilité du matos, vérifier que tout passe. C'est surtout ça qui est pratique, de se dire bon, si j'installe cette distro, est-ce qu'au minimum, déjà, est-ce que depuis le live, le matos est reconnu? Si le matos est reconnu, c'est un bon point. Donc je peux l'envisager de tester autrement. Bien sûr, il y a des limitations, mais déjà pour moi, les clés USB servent aussi bien pour le dépannage que pour les pré-tests.
D'accord.
Ça permet de me dire, est-ce que, par exemple, est-ce que ma carte graphique va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que mon imprimante va être reconnue? Est-ce que ça permet déjà de dégrossir le boulot?
Et tu as justement des configurations matérielles qui peuvent être sensibles par moment, qui peuvent être problématiques?
Mais je peux prendre ma machine récente, comme dont on m'a fait don, tu dois savoir. Mais il a fallu que j'attende un noyau 4.16 et un composant qui s'appelle Mesa pour pouvoir enfin envisager d'utiliser le circuit graphique du Ryzen 3G. Circuit graphique intégré.
D'accord.
Donc c'est pour ça que. C'est-à-dire que si on a du matos trop récent, Linux peut être chiant. C'est-à-dire que quand j'ai reçu ma machine, le Ryzen est sorti un peu après le noyau, donc c'était un support un peu bancal. Heureusement, j'avais une carte vidéo pour me dépanner. Maintenant, ça fonctionne, j'en profite. Mais c'est-à-dire que dans l'idéal, il faudra avoir un noyau qui supporte au plus de moins de 3 mois. Si on a du matos récent, que le noyau soit vieux, que le noyau qui le supporte soit moins vieux de 3 mois. Sinon, c'est un peu casse-gueule.
Ça, je veux bien le croire. Est-ce qu'au final, il est plus facile d'installer Linux que Windows?
Je pense que c'est plus facile sur un point, c'est que déjà, au lieu d'avoir uniquement un environnement nu, avec Windows qui pèse parfois 8 ou 10 gigas, tu as déjà toute une logistique derrière. Ça te permet déjà d'avoir, ne serait-ce qu'une suite bureautique, qu'un navigateur. C'est déjà un minimum fourni. Bon, je ne suis pas trop objectif, parce que ça fait 12 ans que je suis en monoboot Linux. Mais je considère que c'est plus facile, ne serait-ce que pour déjà se dire, bon, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que si, est-ce que ça? Après, il y a toujours des limites, mais je préfère, bon, c'est mon côté Linux qui parle, je préfère utiliser un Linux qu'un Windows. Ah, je ne suis pas trop objectif, mais désolé.
Non, mais ton point de vue est extrêmement intéressant. Et d'un autre côté, pourquoi la plupart des distributions populaires d'environnement Linux actuellement sont basées sur Debian? Est-ce qu'objectivement, ça se comprend ou... Enfin, de ton point de vue, ça se comprend ou non?
Mais ça peut se comprendre parce que Debian est une distribution mère. C'est-à-dire que c'est une distribution qui existe depuis le début, comme la Slackware, comme avec la Red Hat. C'est des distributions qui sont quand même assez anciennes, qui ont une grosse communauté derrière. Donc automatiquement, on sait qu'on aura du support technique. C'est pour ça que Debian est utilisé indirectement par Ubuntu et Linux Mint et ainsi de suite.
D'accord, ok.
C'est une grosse base.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Frédéric Béziers, qui est blogueur et testeur de distribution Linux. Frédéric, pourquoi, d'après toi, il y a un besoin de créer des distributions supplémentaires Linux ?
Linux ça, ou autre. Je pense que le problème, c'est que c'est une utilisation par que je parfois qualifie d'abusive des quatre libertés du libre. Tu dis quatre libertés, c'est liberté de modifier le programme, de l'utiliser de comme on veut, de reproduire, de modifier. Les quatre libertés du libre, comme définies par FSF, sont très bien, mais elles ont tendance à être utilisées abusivement. C'est pour ça que je parle de le principe du fork, c'est prendre un nouveau progrès, prendre un projet et le en faire sa propre version. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive sur des distributions qui ne servent pas à grand-chose, ce que j'ai appelé les DGLFI, distributions GNU Linux, franchement inutiles, qui se résumeraient à simplement « je change le fond d'écran, je change le thème, je change le navigateur et boum, ça fait une nouvelle distro ». Non, je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est que ça finit par disperser les efforts. C'est lui qui, au lieu de se concentrer sur des projets, des gros projets qui pourraient avoir une certaine synergie, non, tout le monde se disperse, et ça des courses, les efforts se dispersent et on perd du temps.
Dans la multitude de programmes qui existent pour faire exactement le même rôle, est-ce que c'est pas handicapant quand on passe d'une distrib à une autre de se retrouver avec presque le même programme mais qui n'a pas exactement les mêmes fonctions, la même manière de faire?
Mais c'est-à-dire que les programmes dépendent souvent des environnements. Si on va prendre une distribution avec par exemple KDE, qu'on va sur notre KDE, mis à part les versions, on a souvent les mêmes logiciels. Le problème, c'est la redondance des environnements. Il y a GNOME, il y a KDE, il y a Plasma, il y a XFCE et compagnie. Chaque outil, chaque environnement a ses outils. Donc, c'est peut-être ça le problème. C'est nécessaire d'avoir plusieurs environnements parce qu'on aura peut-être plus de sensibilité à avoir utilisé quelque chose qui ressemble à Windows ou quelque chose qui ressemble plus à Mac. On aura besoin de quelque chose de plus léger. Donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ça peut être aussi bien gratifiant qu'handicapant. C'est un peu à double tranchant.
Récemment, Cyril Lambin, qu'on a reçu dans cette émission, qui était le directeur technique de la chaîne No Life, qui a disparu en début de mois, Cyril Lambin donc avait tenté d'utiliser différentes distributions Linux chez lui. Donc on rappelle quand même qu'il était administrateur de machines qui étaient à la fois sous Linux et sous Windows. Chez lui, il était sous Windows parce qu'il avait besoin de certains programmes qu'on ne trouve pas dans le domaine du libre. Et outre les haters qu'il a eu en commentaire, ce qu'il en ressort, c'est le manque de finition. Chacune des distributions qu'il a essayées a un problème différent, alors qu'il est déjà résolu dans les programmes Vanilla. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de finition dans la plupart des distributions, voire même dans toutes ?
Ça, c'est la conséquence de la dispersion des efforts. C'est, comme je dis souvent, il y a sous DistroWatch, il y a 300 distributions, dans les deux tiers ou les trois quarts sont bureautiques. Est-ce que la moitié ne pourrait pas disparaître, entre guillemets ? Ce serait dommageable. Mais est-ce que la moitié ne pourrait pas disparaître et mettre en forme une synergie des efforts pour justement aider que les applicatifs soient avancés. Je ne sais pas si tu as vu une vidéo que j'avais fait avec une personne du groupe TuSenva pour que j'appartiens, on se plaignait justement du manque de finition des applications. C'est terrible. Au lieu d'avoir 15 distributions, pourquoi ne pas avoir que 10 ou 7 mais orienter les efforts sur la finition. Quand on voit le temps qu'a mis VLC à sortir, VLC 3 a mis plus d'un an à sortir. Il y a un manque de problème. Il y a un problème au niveau. C'est vrai que c'est pas glorieux de travailler sur une suite bureautique, travailler sur VLC ou autre. C'est pas glorieux. Ça permet pas de mettre une ligne de plus sur son CV, mais ça permet aux utilisateurs d'avoir quelque chose d'utilisable. Et ça, c'est le plus important.
Est-ce que dans ce cas-là, plutôt que, puisque tiens, on va prendre par exemple Debian, la ville de Munich avait sorti sa propre distrib justement pour la suite bureautique, la gendarmerie nationale a sa propre distrib pour la suite bureautique, et est-ce que ce ne serait pas plus simple de proposer en fait une liste de serveurs de dépôt de paquets et la liste des paquets à installer pour faire justement ce pourquoi c'est prévu dans une entreprise? Une grande entreprise ne va pas faire sa propre distribution Windows. Il pilote la flotte.
Non, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait, que le nombre de distributions peuvent se résumer à un document de 3 ou 4 pages, faire ça, 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 ça et ça. C'est la distribution qui ne sert à rien en réalité. Si une distribution se change juste le fond d'écran, le thème d'icône et compagnie, quel intérêt ? Ce serait plus simple de dire, bon, vous prenez tel paquet, vous faites ça, 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 et boum, ça fait gagner la place.
Dans le domaine des distributions, ce qui est important, c'est bien évidemment, c'est la communauté des contributeurs Donc, ceux qui font le packaging, ceux qui font des softs spécifiques, ceux qui les distribuent, ceux qui font l'accompagnement des utilisateurs. Quelle est la meilleure gouvernance que tu as vue pour une distribution et qui se ressent sur la qualité de la distribution? Est-ce que c'est une dictature façon Linus Torvalds ou ouverte ou une relation avec comme des clients et en soit il faut acheter?
Moi, je pense que ça dépend de la taille de la communauté. C'est-à-dire qu'une grosse communauté, c'est un peu jeune comme une entreprise, un peu comme ce que fait Red Hat ou Linus Torvalds. C'est-à-dire, il y a des chefs d'équipe, Linus Torvalds c'est tout en haut, il dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Parce que quand on dépasse une certaine taille, on est obligé de régenter. Quand on est une petite communauté, on peut travailler à la démocratie avec des votes rapides et compagnie comme Product Semvap. Quand on a fait nos ISO, on a travaillé ensemble. Et Baba Orom, qui est le mateneur principal, a dit bon, j'implémente ça, ça, ça et ça. Mais un petit groupe, on peut le faire. Mais quand on commence à monter
en taille,
oui, on est obligé d'avoir une gestion à la entrepreneuriale, sinon ça ne fonctionne pas. C'est mon avis.
Oui, on le répète, hein, c'est bien évidemment ton avis. Moi, je l'endorse absolument pas. Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. L'importance d'une communauté dans le choix d'une distribution, c'est
peu importe.
Est-ce que c'est finalement, c'est un problème de nombre d'utilisateurs dans cette communauté ou la proximité, la facilité que l'on a de joindre quelqu'un de cette communauté, voire même proximité géographique.
Bon, avec Internet, la proximité géographique, on peut très bien mettre de côté. Mais moi, ce qui compte surtout, c'est déjà la compétence des membres, l'accueil de la communauté. Il faut que la communauté soit ouverte, qu'elle soit compétente et surtout qu'elle ne tombe pas dans le zèle. Qu'elle fasse la publicité pour ses propres produits, c'est normal. Mais qu'elle tombe dans la haine des autres communautés, c'est la connerie pure et simple.
On en est à des flamwares vraiment débiles.
Flamware, je crois que sortir la Tsar Bomba, ce serait plus réaliste.
Non, parce qu'entre nous, Arch Linux, des fois, c'est fini au petit pipi. Je déconne.
Mais c'est vrai, il y a beaucoup de distributions qui ne peuvent pas se voir. Je vais en citer deux, Mageia et Open Mandriva, elles ne peuvent pas se voir en peinture.
Oui, mais là, c'est historique. Il faut raconter pourquoi.
Ah, ça, c'est vrai. C'est par rapport à... C'est quand Mandriva a commencé à partir en cacahuète, Mageia s'est tiré, puis Open Mandriva a conservé le bébé, puis les deux communautés ne peuvent pas se voir. Donc ça... Surtout, ce que je conseille, moi, c'est une communauté quand même qui est assez solide. Et il y a des conseils que je donne souvent, c'est éviter les distributions mono-développeurs. Parce que vous ne savez pas que si le développeur en a marre, il va se tirer et votre distribution, vous l'avez dans le...
Oui, ça s'appelle le bus factor.
Voilà.
Quand on a une distribution dans laquelle on est bien, théoriquement, on pourrait changer d'architecture processeur de manière transparente. Alors pourquoi est-ce qu'on a encore des PC de bureau ou serveurs ou Intel alors qu'on pourrait passer, je ne sais pas, ARM ou Power?
Mais pour cette bonne raison, la puissance de calcul.
Ça commence à devenir faux, hein, sur ARM maintenant.
Déjà, quand on aura des processeurs ARM aussi puissants qu'un i7, dans toutes les capacités, on verra. Non mais c'est vrai aussi que le problème est ARM. On peut citer un site comme Arch Linux ARM. Il y a ARM V5, V6, V7, V8. ARM, c'est une horreur. Linus Torvalds l'a dit, c'est une horreur. Je ne sais pas combien de millions de lignes de code pour supporter toute certitude ARM. Autant Intel et AMD, ça va à peu près parce que c'est la même architecture et c'est la même. Mais ARM, on tape dans un chapeau, il y a 15 processeurs différents qui sortent. C'est très chiant à gérer.
Ils ont refactoré le code source justement du kernel Linux pour travailler en feature plutôt qu'en version de processeur. Oui.
Mais c'est une horreur. Quand je vais sur Arch Linux ARM, je vois telle carte c'était le processeur, telle carte c'était l'autre. Comment on s'y retrouve là-dedans? ARM est très bien, mais c'est vrai que côté consommation, c'est le pied, mais je considère encore que les processeurs, malheureusement, tout ce qui est Intel et compagnie, ont encore pas mal d'années devant eux avant que ARM les dépasse et leur foutre un grand coup de pied dans les fesses. Après, ça dépend de la portabilité du code.
Après, peut-être que Casper va faire changer d'avis, même les constructeurs. Actuellement, Linux Mint semble être à la mode. Ça, je vois beaucoup de gens autour de moi depuis 3-4 ans qui sont passés à Linux Mint. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en méfie. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette distrib?
Linux Mint, si on regarde DistroWatch, bon, c'est qu'un classement de curiosité, mais entre 2006 et 2011, 2005-2011, c'était Ubuntu, tout le monde installait Ubuntu. Mmh. Après, tout le monde est passé à Mint. C'est le problème des distros à la mode. Elles sont peut-être très bien, mais elles souffrent justement d'être à la mode. Mint est une base Ubuntu. Ils ont fait une énorme erreur, selon moi, c'est ne pas mettre en avant leur base Debian, mmh. qui est légèrement plus légère. Il y a aussi la politique un peu de gribouille, si je peux me permettre, entre guillemets, de la politique de sécurité. Mmh. Et ça, j'aime pas trop. Soit on fait les mises à jour, soit on ne les fait pas. Il n'y a pas à dire, moi je m'excuse, toutes les mises à jour, il faut les faire. Mmh. Jamais de mises à jour partielles. Parce qu'ils me disent, ouais, les mises à jour, il faut les mettre par niveau. Bullshit. Moi je m'excuse, s'il y a des mises à jour, on les fait. Point barre.
C'est une question de sécurité d'ailleurs. C'est absolument.
Ouais, moi, je reprendrai la phrase de Yuda, pas essayer, tu le fais ou tu le fais pas. Mmh.
C'est vrai que c'est absolument terrifiant, l'idée de cherry-piquer comme ça.
Oui, mais ça peut te casser gueule à terme. Mmh. S'ils proposent des mises à jour, c'est qu'ils ont testé. Du moins, en théorie.
Oui, pas faux. Que penses-tu des PC qui viennent avec une distribution Linux constructeur, par exemple Dell qui fournit des Ubuntu?
Ben, c'est pas une mauvaise idée, finalement. Ça permet de démocratiser un peu. Et par contre, il ne faut pas tomber dans les machines qui coûtent la peau des fesses.
C'est le problème, ouais.
Mais je citerai, malheureusement, je vais me faire assassiner par tous les trolls de Manjaro FR et compagnie, la Manjaro SX. Je ne sais pas si on en a parlé de ce projet de portable.
Non.
Mais c'est-à-dire, c'est un portable assez couillu, mais qui est vendu 999 livres sterling.
Ah ouais, ça fait un peu cher quand même.
Ah, ça pique un peu, oui. Et on peut bon, trouver
après, je connais pas
pour 800 livres à peu près.
D'accord, ok, oui, c'était ça que j'avais pas, c'était par rapport au perf et tout ça, quoi.
En gros, je crois que c'est un set mobile, mais si on compare avec l'existant, c'est en gros les prix des machines Mac, mais avec une Manjaro dessus, bof, quoi. C'est pas franchement. C'est-à-dire que si on a moyen de foutre 1 500 € dans un portable, autant acheter du Mac si on veut avoir un ultra portable. C'est-à-dire que c'est comme ça. Avec, même si Manjaro a des qualités, moi je m'excuse, pour 1 500 €, je vais pas acheter un portable, j'achèterai directement du Mac et autant acheter de ce qui va avec, hein.
Je comprends tout à fait. Est-ce que tu as tenté des OS basés sur, par exemple, sur BSD?
Oui. Oui. Et là, c'est une petite révélation que je vais te faire parce que ce n'est pas encore officiel. Mais j'ai un IPC, un vieux IPC à 1005 AHG, que j'ai passé sur le projet Isotope. C'est une image, en gros, une base bureautique, mais basée sur BSD, OpenBSD.
D'accord, ok.
Mais c'est-à-dire que comme les distributions Linux 32 bits commencent à partir les unes après les autres, et comme je connais Tuban, qui est le développeur de Isotope, je me suis dit, pour le peu qui reste à vivre à cette IPC, je vais mettre sous OpenBSD, et comme j'aime bien OpenBSD, voilà.
Et que penses-tu d'une distri BSD comme macOS X?
macOS X, je l'ai utilisé à l'époque de Tiger, mais le problème, c'est que maintenant, c'est trop fermé. Le principe est bon, il faut se souvenir qu'à l'origine c'était Next Step, donc une base BSD. Quand Steve Jobs est revenu, il a dit on part sur Next Step et on fait une nouvelle version de Mac. J'ai testé, c'était pas mal, mais depuis quelques versions, c'est devenu très lourd et ça se forme de plus en plus, c'est pas intéressant. Voilà.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes donc avec Frédéric Béziers, qui est blogueur et testeur de distribution Linux.
Et grande gueule.
Eh ben justement, dans ce cas-là, allons-y dans l'horreur. Peux-tu nous définir ce que c'est qu'une dependency hell?
Alors, dependency hell, traduction littérale, l'enfer des dépendances. Parce que, vous le savez peut-être, les paquets se gèrent en dépendance les uns avec les autres. Et par moment, c'était surtout les années 90, il y a des dépendances qui pouvaient partir en cacahuète. Et résultat des cons, on se retrouvait avec un système qui était complètement bloqué, et on avait des dépendances circulaires, on n'arrivait plus à s'en sortir, le seul moyen c'était on sort la disquette et on recommence à zéro. Ouais. Donc c'est vraiment l'enfer des dépendances qui a été maintenant géré beaucoup mieux. Mais il y a toujours des distributions qui gèrent mal les dépendances, malheureusement.
Donc il en reste encore qui ne font même pas attention à ça, ou le programme...
C'est déjà très mal. C'est-à-dire qu'il découpe les paquets, que pour une distribution aura 15 paquets pour un seul logiciel, l'un ou l'autre n'aura que 5. Donc on se retrouve avec des listes de paquets à rallonge, c'est un peu long.
Ça, je veux bien le croire. Firefox a son système lui-même de distribution, pour donc outre ses propres mises à jour, pour par exemple ses add-ons, ses thèmes graphiques. La plupart des langages de Go, Node.js, Rust, Python, PHP ont chacun le leur. Est-ce qu'un jour, les gestionnaires de paquets des OS vont collaborer justement avec ces systèmes plutôt que proposer leur propre distribution des paquetages et tout ça.
Faut que je sorte ma boule de cristal là. Non, mais je pense que ça dépend de... ça, je crois que ça va rester comme ça. Pour cette même raison, c'est que certaines distributions sauront empaqueter toutes les bibliothèques et compagnie, d'autres ne sauront pas le faire ou le feront moins bien. Et c'est pas plus mal finalement, parce que ça permet par moment de mieux gérer ça. Mais c'est vrai que parfois ça peut être une merde monstrueuse. Donc là, je sais pas, faut que je sorte ma boule de cristal et que je fasse ma voyante, je peux pas dire.
Alors qu'on a tous les outils de test maintenant, puisqu'on a quasiment 25 ans quasiment bientôt de distribution Linux en expérience, beaucoup de nouvelles distributions sont lancées sans même avoir tenté leur propre install. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se taillent la bourre, ils se sont mis une deadline, il faut la finir avant le voisin d'en face?
Non, ils sont quand même en affaire du slip, on pourrait dire aussi. Même si c'est plus du slip, c'est carrément une caleçon. Non, mais je pense que il y a pas suffisamment de bêta-testeurs. Il y a beaucoup de personnes, mais c'est-à-dire ce qui manque vraiment dans le domaine du livre, c'est du bêta-test, c'est des traducteurs, des personnes qui font la documentation et compagnie. Ça manque. C'est pour ça que je suis bêta-testeur dans le projet Duxenvap avec d'autres personnes. C'est vrai que j'ai des bêta-tests d'isotope. Chaque fois que je peux aider à bêta-tester un produit, je le fais. Je le fais avec plaisir.
Et quelqu'un justement qui veut bêta-tester une distribution qui relève une erreur, comment peut-il aider? Est-ce qu'il y a vraiment une procédure qui est standard? Parce que c'est quand même pas évident. T'es coincé sur la ligne de code, parfois t'es même coincé au grub ou que sais-je, quoi.
Mais la plupart du temps, il faut remonter par les forums. Quand les forums ne sont pas malheureusement des ensembles, des trous noirs. Donc le mieux, c'est de passer directement à l'international, parce que souvent les communautés locales ne servent pas à grand-chose malheureusement. Donc le mieux, si on connaît des personnes qui parlent anglais, on fait remonter les bugs sur ce qu'on appelle les bug trackers. Moi, je ne parle pas trop mal anglais, donc je rapporte directement les bugs, que ce soit pour Firefox, que ce soit pour le logiciel A ou B. Mais le mieux, c'est de faire remonter les bugs, de parler sur des forums, de parler par IRC, parfois sur les canaux Discord. Il faut faire remonter les bugs, sinon les bugs ne sont pas corrigés. Les développeurs ne peuvent pas tout tester. Ça, c'est comme ça, c'est terrible. Bon, ils peuvent faire des trucs, mais ils n'ont pas non plus. Il faut vraiment que les bêta-testeurs s'impliquent. C'est vraiment le problème.
Et est-ce qu'en général, tes tests sont bien perçus ou peuvent être parfois très mal perçus quand tu tombes sur un bug tu t'es fait recevoir des fois?
Dirons-nous que j'ai des bleus sur le dos. Non, c'est vrai que je suis aussi bien reçu que reçu comme un chaîne à un jeu de quilles. Et c'est vrai que comme j'ai mon franc-parler, quand je dis que ça, il ne faut pas le faire, que c'est tout le contraire qu'il ne faut pas faire, que c'est vraiment de la merde, ils n'apprécient pas, mais moi, désolé, j'ai mon franc-parler. Quand on dit distribution, oui, est disponible dans X langues, et qu'on s'aperçoit que dans les langues soi-disant supportées, il n'y a pas la traduction, moi, je m'excuse, c'est du mensonge, c'est du foutage de gueule. Voilà.
D'accord.
Donc, je peux très bien être aussi bien accueilli en me disant merci ou va te faire voir, tu me fais chier.
Et est-ce que pour le coup, ça t'est déjà arrivé de réunir des amis, de faire une sorte de réunion publique, chacun avec sa bécane, pour tester des distribs et remonter les erreurs?
Non, malheureusement, on fait ça directement par Internet, mais je n'ai jamais fait ça, malheureusement.
C'est un événement communautaire, ça pourrait être l'occasion, justement, de faire découvrir comment faire de dépatouiller.
Oui, ce serait l'occasion, mais sinon, avec l'équipe Tuxenvap, dont je fais partie, on s'est vu pour la fin de l'année dernière, donc on a profité aussi pour discuter, pour se voir en chair et en os. Bon, pas forcément en moi en os, parce que je suis un peu squelettique.
Oui, je veux bien croire. Même Debian, qui était le summum de la stabilité à une époque, des fois ne semble pas franchement au top. La dernière version majeure, quand même la mise à jour, ils ont quand même eu des bugs qui étaient pas
clairs. Si tu parles de la Debian 9 à la stretch, je considère qu'elle est sortie un mois trop tôt. Elle aurait dû sortir au mois de juillet, pas au mois de juin. C'est-à-dire, quand ils ont annoncé la sortie, je me suis dit, oula, elle est encore un peu fraîche. Et d'ailleurs, quand on voit que la première point release est sortie au bout de deux mois, on s'est dit, ils sont allés trop vite. Même s'ils n'avaient pas de deadline, ils auraient dû rallonger un tout petit peu la période de freeze et ça aurait pu permettre de corriger certains bugs. Ils ont voulu aller trop vite et puis dommage quoi. Mais sinon, une fois qu'il y a des bien, mais moi je pense que des grosses distributions, il faut attendre la première point release pour y passer, par sécurité, le temps que les pattes soient essuyées.
Bon, je me permets de te le dire, mais avec ton accent, c'est très mignon. On dirait le fromager, tu vois, où tu fais « Oula, mais il est sorti trop tôt, ce fromage, il n'est pas affiné. » Il faut le laisser un petit peu.
Je suis de côté de Bordeaux, donc c'est pour ça que j'avais un peu chantant.
On n'est pas loin, on est à Toulouse.
Ouais, c'est pour ça.
c'est ça qui est extrêmement agréable. C'est
mais j'ai l'accent la radio. Du passé d'Arcachon.
blague à part, où c'est que j'en étais. Alors, on est enfin passé au release early, release often. Pour la plupart des logiciels libres, comme Firefox, on se souvient quand même de la version 3.6 qui est restée, la version 3.5 qui est restée bloquée 2 ans, je crois. C'était horrible. Et ils ont perdu du coup une audience énorme à cause de ça. Thunderbird, n'en parlons pas. LibreOffice aussi, maintenant ils commencent à faire des distributions avec des sorties rapides. Faut dire que maintenant qu'il n'y a plus Java, c'est plus simple.
Ça aide.
Non, pas de polémique. Les durées de vie de plus d'un an pour une version de distrib, est-ce que ça se justifie encore?
C'est là qu'on touche le problème de certaines fixes releases. C'est pour ça que je dis souvent des distributions comme Debian et apparentées, surtout Debian, c'est pour les serveurs, les postes d'entreprise et les postes d'établissement, style école, collège, lycée, université. C'est très bien parce que ça permet justement de conserver quelque chose de stable. Bien sûr, on peut toujours modulo, bien sûr, tout ce qui est navigateur et compagnie. C'est pour ça que je dis souvent, depuis quelques années, on a assisté à une accélération des versions sorties. Bien sûr, maintenant, Firefox, c'est toutes les 6 à 8 semaines, ou 8 à 9 semaines. LibreOffice, c'est une durée de 6 mois. Donc, c'est vrai que certaines fixes, elles commencent à montrer leurs limites. C'est pour ça que je défends le modèle rolling. Mais je ne suis pas non plus dans le rolling pour tout le monde. Qui sait qui s'amuserait à mettre une rolling release sur un serveur? Au fou.
J'ai vu des serveurs sur Arch Linux. Sur Arch Linux, oui. Donc on explique hein, là.
Sortez les torches et les bûchers là.
Voilà, on explique un petit peu le concept de rolling release, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas de numéro de version, c'est-à-dire que.
En gros, on installe une fois et on réinstalle uniquement quand ça pète.
Donc on est continuellement dans la mise à jour des paquets, des fois au jour le jour.
Exactement. Même moi qui suis en Arch Linux testing, il y a certains logiciels qui ne sont pas encore passés. Mais il faut surtout pour une rolling, c'est que les développeurs fassent leur boulot et le fassent bien. C'est tout.
Une distrib a un dilemme aussi, quand même, il faut quand même le reconnaître. Jusqu'à quand supporter un matériel que les OS principaux considèrent comme obsolète? On parlait justement tout à l'heure des distribs en 32 bits. Est-ce que c'est pas aussi. Est-ce que tu les comprends quand ils décident d'abandonner certaines architectures ou est-ce que c'est un devoir, je vais dire, de sauvegarde écologique d'essayer de maintenir des bécanes qui ont plus de 10, 15 ans, 20 ans?
Ça, il faut voir au cas par cas. Moi, je pense qu'au bout de 15. Déjà, il faut. Je pense que d'ici, on va dire, allez, 2025, le 32 bits ne sera plus que l'histoire sur le port des PC. Il faut quand même laisser mourir. Bon, certaines vieilles machines, c'est plus la peine parce qu'il faut être réaliste. Des équipes ne pourront pas avoir toutes les architectures possibles et imaginables. C'est normal que des distributions disent bon, on n'a plus le matos pour maintenir, donc désolé, on arrête. C'est normal et je ne les critiquerai pas. C'est tout. Il y a des distributions, Debian, donc on peut continuer pendant un ou deux cycles à supporter 32 bits et puis ça retomber. C'est normal, parce qu'il faut quand même laisser mourir certaines architectures de leur belle mort. C'est tout. C'est pas une question d'écologie ou autre, c'est juste pour dire ce matos a vécu. D'ailleurs, qui trouve encore du Pentium 4 fonctionnel?
J'en ai un là. Mais je l'allume pas, ça coûte trop cher.
C'est pas ça, mais pour des vieilles machines slip Pentium 4 ou les premiers processeurs 64 bits, mis à part des personnes qui en ont vraiment pour faire du recyclage ou des petits serveurs, d'accord, pour faire du NAS, d'accord. Mais quel intérêt sinon? Bien sûr, il y a Ubuntu qui fait du recyclage de machines pour les pays comme le Togo et compagnie. Je veux bien. Mais il faut savoir aussi par moment dire stop, on arrête l'acharnement thérapeutique.
Jolie phrase. La plupart des distribs participent à des projets, remontent d'ailleurs du code dans les projets libres, mais certaines plus que d'autres. Red Hat contribue beaucoup, par exemple. Ils ont été très longtemps dans le top 3 des contributeurs du kernel Linux. Ils y sont encore, d'ailleurs.
Je crois qu'ils sont même dans le top 5 maintenant.
Ouais.
Top 10.
Alors que Ubuntu s'est enferré dans son projet Mir là, pour remplacer Xorg, et puis ils sont repassés à Wayland quand ils ont vu que c'était une impasse, et a très peu contribué à côté. Finalement, quand une distrib se lance dans un projet tout seul, ça pue un peu.
Non, surtout, je pense que c'est mal vu surtout par rapport au côté communautaire du livre. Mmh. C'est surtout ça. Parce que si tu parles, tu as parlé de Mir, mais on pourrait parler aussi de Unity, qui était Ubuntu Only. Il faut parler d'Upstart, qui était Ubuntu Only. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'ils ont voulu proposer des trucs, mais ils sont restés pour eux, pour leur gueule. Ça donnait l'impression de « on fait du cavalier seul ». Et ça, c'est mal vu dans un monde communautaire comme celui du libre. Mmh.
D'accord.
Quelle que soit la qualité du logiciel, en étant passant. Mmh. Et pareil avec Snap par rapport à Flatpak.
Pour terminer, une distrib que tu conseillerais à ta vieille tata du Quercy, je suppose ça ne va pas être Arch Linux, parce que sudo pacman-syq, quand même, c'est un peu
non,
chaud.
Non, c'est pas ça, mais par contre, bon, je vais faire un petit peu de pub pour le projet auquel je participe, la Manjaro oui. Tuxen Vap.
D'accord.
C'est-à-dire que ce sont des respins de Manjaro, maté et open box. Ça permet pour les petites machines et les grosses d'avoir de pouvoir être utilisé tranquillement. D'ailleurs, je suis sur Arch Linux maté, personnellement. Mais je participe en tant que bêta-testeur à Tuxenvap et aussi à d'autres projets. Mais vraiment, Tuxenvap, pour plusieurs raisons. Un, c'est une running release. Si on a de bonnes connexions, c'est pas trop mal. Et tant que... Après, c'est une distribution que je conseillerais parce qu'elle est facile à utiliser, facile d'emploi. Et d'ailleurs, Baba, que je connais, a mis plus de 150 personnes sous Tuxenvap. Et il a eu 2-3 retours négatifs.
Ça va. Ça va, ça veut dire que c'est rodé, quoi.
Mais c'est-à-dire que le retour négatif qu'il a, c'est style « Ah, mais il y a ça qui fonctionne pas. Ah bon ?» Et il a mis à des kinés, il a mis à des professions, tout genre de personnes, pas forcément des informaticiens, et ça ronronne. Il va juste le dire, passe de temps en temps, « Mais ça va, oui, ça va, machin, oui, c'est bon, ça fonctionne. » Rien à déclarer.
Tant mieux. Voilà. Frédéric Béziers, merci beaucoup. Est-ce qu'un jour tu sortiras un dictionnaire des distribs?
Je crois qu'il faudrait carrément l'encyclopédie
chez Larousse,
oui. Britannica, oui, il faudrait longueur.
D'accord. En tout cas, c'est un immense plaisir d'avoir pu discuter avec toi et donc on mettra tous les liens de tout ce dont on a parlé, on les mettra sur la page de l'émission cpu.pm. Okay. Merci à toi.
De rien.